aujourd'hui, pour notre billet d'humeur, j'ai souhaité faire du neuf. Faire du neuf, c'est un peu faire le ménage dans ses idées. C'est trier son foutoir, son bureau, pour en tirer une idée cachée sous les monceaux de réflexions non classées, abandonnées ou en attente. Allez, osons l'anglicisme, les réflexions, in process. Bon, tout compte fait, restons sur foutoir, ça sonne mieux. Faire du neuf, c'est en quelque sorte se mettre au devant de la scène intellectuelle. Détournons une maxime de notre Johnny National, faire du neuf, c'est un peu allumer le feu de l'innovation. Mais autant dire que c'est compliqué d'enflammer le public de nos idées géniales, surtout si on met de côté les différentes recettes de cocktails Molotov artisanal. Pour y arriver, il nous faut acquérir un savoir-faire digne d'un cuisinier gastronomique. Imaginez, récupérer des idées existantes que l'on a retrouvées dans le fond d'un tiroir et leur incorporer avec délicatesse des idées récentes, le tout pour faire lever progressivement une idée originale dont la force du déjà-vu accentuerait la légèreté de la nouveauté. Cuisiner les idées, c'est tout un savoir-faire. Dans une émission précédente, Lucille Gély nous a fédéré autour du monde de l'inspiration. Ce monde où l'immatériel et le réel ont tendance à s'hybrider dans l'espoir de créer un support clair pour expliquer au public ce qui se passait dans notre tête. Victor Valentini, quant à lui, nous a montré qu'entre conviction et raccourci, notre cœur balançait autour d'un billet d'humeur qui ne serait, je cite, que « l'apparat du bavardage ». Alors, comment faire du neuf ? Entre recherche d'inspiration, conviction et bavardage, il faut que je fasse preuve d'originalité. Originalité. Originalité qui, selon Wiktionnaire, s'écrit phonétiquement « originalité ». Information d'un intérêt assez réduit dans une chronique radio, certes, mais information qui a tout de même le mérite d'exister. Originalité, ce nom commun, désigne la qualité globale de ce qui est original, le caractère de ce qui est neuf. L'originalité est une nature unique. L'originalité est de nature créative. L'originalité est de nature. Mais attendez, de nature, bien sûr. Je repense aux réflexions de Monsieur Fucius, mon bienveillant professeur d'histoire-géographie au lycée.
Mon cher monsieur, la réponse à votre question se trouve dans le texte. Et vous aurez largement l'occasion de la rechercher pendant vos 2 heures de colle.
Oui, mais merci Monsieur Fucius. Bref, la recherche d'originalité résiderait donc dans sa propre définition. L'originalité est de nature. Et la nature, n'est-ce pas l'espace qui nous entoure ? Une balade sur les reliefs montagneux, la lecture d'un livre dans un parc ou encore les longues réflexions en barbotant la brasse coulée dans l'eau d'un lac ne me forment-ils pas les éléments propices à l'innovation ? Entre pérégrination naturelle et cours de cuisine, je vois que mon foutoir n'est toujours pas mieux rangé. En plus, maintenant j'ai envie de marcher dans la forêt et j'ai faim. Alors cher auditeur, il est temps de te laisser assouvir ta fin de chronique en te souhaitant une bonne écoute et, soyons original avec le mot de la fin de ce billet, 2 points, ouvrez les guillemets, pigeon.
Sur ce magnifique mot, bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'écouter le billet d'humeur de l'émission, réalisé aujourd'hui par Xavier Badan, doctorant en géographie sociale, à l'université Blaise Pascal. C'est donc Barbara sur les ondes de Radio Campus pour une nouvelle édition de Quoi de neuf Doc. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir et j'espère que cette émission répondra à vos attentes, vous qui rêvez de tout connaître sur la science, la société ou sur vos voisins chercheurs. Aujourd'hui, l'émission débutera par l'interview d'Alexandre Pinel, doctorant en nutrition humaine à l'INRA et membre du projet Charte de la jeunesse scientifique Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit bien évidemment du 8 minutes avec, réalisé par Arthur Chassagnol, doctorant en mathématiques fondamentales à l'université Blaise Pascal. Clément Matona, doctorant en économie au CERDI, prendra ensuite la parole pour nous parler d'un ouvrage qu'il a apprécié. Ce soir, sa chronique « Avez-vous lu ?» sera consacrée à l'ouvrage « Capitalisme, désir et servitude » de Frédéric Lordon. Nous retrouverons ensuite Camille Rouillon, doctorante en chimie à l'université Blaise Pascal et sa chronique du Hot Doc. Elle est accompagnée ce soir de Romain Prulot, docteur en chimie et actuellement en post-doc à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Il nous parle de robots. Puis nous laisserons la parole à Nicolas Duraca, doctorant en sciences de la communication à l'université Blaise Pascal pour sa chronique « Fait de beaux rêves, Doc ». Un sommaire bien rempli, qui pour la première fois, je crois, ne compte pas de juristes. Attention, c'est une exception. Je suis sûre qu'ils vont le revenir en force dès la prochaine émission. D'autant que même Alice n'a pas pu venir puisqu'elle est actuellement sur le forum doctorant entreprise organisé par Doctoverne. Et on a également, je tiens à le préciser, Yann à la technique qui se sent pas trop seul puisque exceptionnellement nous avons des invités en studio ce soir. Alors profitez bien de cette émission et vu que déjà vous trépignez d'impatience, je vous laisse commencer l'émission et je laisse pour la première fois l'émission débuter en donnant le micro à Arthur qui doit être ravi de commencer.
Thank you. 8 minutes avec.
Merci Barbara, bonsoir à tous nos auditeurs. Donc effectivement, on va commencer directement par notre rubrique 8 minutes avec. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alexandre Pinel, donc doctorant en nutrition humaine à l'INRA, qui va rapidement nous parler de son parcours jusqu'en thèse. Mais le sujet aujourd'hui va être centré sur un projet assez important autour de l'industrie agroalimentaire qui s'articule autour d'une charte de la jeunesse scientifique Auvergne-Rhône-Alpes qui a été réalisée il y a quelques mois lors de l'exposition universelle de Milan. Il vous en parlera mieux que moi dans les minutes à venir. Alors bonjour Alexandre.
Donc, bonjour.
Pour commencer, comme d'habitude, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ton parcours, ce qui t'a mené en thèse et nous parler très rapidement de ton sujet de thèse avant d'aborder vraiment le sujet du jour sur la charte de la jeunesse scientifique.
Oui, ben du coup, pour mon parcours, ça va être assez simple parce que j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique. Donc après avoir fait un bac S à Cournon d'Auvergne, donc je suis un pur Auvergnat, j'ai fait ma licence à Clermont-Ferrand en sciences technologies santé avec un petit parcours spécialité nutrition. J'ai enchaîné avec le master qui correspondait, toujours à Clermont-Ferrand, en spécialité nutrition humaine et santé, pour continuer jusqu'à la thèse, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait plus particulièrement. Et donc je suis rentré toujours à Clermont-Ferrand en thèse à l'INRA sur un sujet donc qui porte sur l'étude comparative des effets biologiques d'acides gras, donc qui sont des constituants des graisses. Et j'ai essayé en fait d'étudier leur importance dans la prévention de l'obésité et du syndrome métabolique.
Très bien. Bon, déjà on a un peu de vulgarisation dans son sujet de thèse qui ne vous a pas énoncé texto comme ça pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Bon, maintenant sur ce sujet, on va pas trop détailler aujourd'hui. J'ai envie assez rapidement que tu nous parles donc de ce projet de charte de la jeunesse scientifique et en particulier comment tu as eu connaissance de l'élaboration de ce projet, qu'est-ce qui t'a amené à participer et comment c'est un peu déroulé les choses à la création au début de ce projet-là.
Alors au tout départ, donc les doctorants, on a été contactés par le Collège des écoles doctorales qui nous a invités en fait à être volontaires pour participer à ce projet qui devait se tenir à l'Expo universelle de Milan. Et on a été contactés par mail pour savoir si on était prêt à participer et commencer à élaborer ce qu'on pourrait appeler un programme dans ce projet-là qui consistait donc à partir sur Milan pour l'exposition pour réfléchir sur donc l'avenir dans l'agroalimentaire et notamment qu'est-ce qu'on pourrait voir comme solution pour avoir une alimentation plus saine et plus durable.
Alors donc sur ce projet-là, qu'on comprenne bien, c'est combien de doctorants du coup qui sont engagés là-dedans? Est-ce que c'est essentiellement des doctorants auvergnats? Quels sont les participants à cette expo universelle de Milan pour plancher sur le sujet?
Alors il y a eu une évolution, on va dire qu'au départ, pour aller à Milan, on était une quarantaine de doctorants, mais pas seulement, il y avait aussi des étudiants de master, notamment en sciences humaines et sociales. Et ensuite, après être passé à l'expo de Milan là-bas, on a continué de travailler, mais uniquement en Auvergne, quoi, entre doctorants d'ici, parce que c'était trop compliqué d'arriver à être en contact toujours avec la région Rhône-Alpes. Et du coup, on est maintenant, 4 à 6 personnes en régulier sur le projet.
D'accord, très bien. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé par essayer de dresser un constat des problèmes au niveau de l'agroalimentaire dans le monde. Donc, ça, c'est assez varié. Ça va de... Je vous lis, j'ai quelques points de ce constat devant moi. Les inégalités dans la répartition des ressources alimentaires et des capacités de production. Le paradoxe existant entre les aires de surconsommation d'une part et les aires de sous-nutrition et de malnutrition d'autre part. Bon, etc. La concentration des zones de production dans un système d'échange mondialisé au détriment des productions locales. Bon, tout ça, c'est un petit peu donc des belles phrases. J'ai envie de dire qu'on est un peu tous d'accord avec ça. Je voulais savoir un peu plus précisément comment vous êtes répartis les tâches, comment vous avez fonctionné pour essayer de dresser ces constats-là, à quel moment vous vous arrêtez et à quel moment vous passez à la deuxième phase qui consiste à essayer d'avoir une charte scientifique et son intérêt, et puis avant de passer aux solutions dont on parlera après.
Oui, alors donc à l'exposition de Milan, en fait, on a été amené à travailler en groupe, en plusieurs groupes. Il y en avait qui travaillaient sur la partie donc introduction, tout ce qui est le constat de ce qui se fait actuellement et qui pourrait être amélioré, et d'autres groupes qui, eux, ont travaillé sur les articles. Et le système était démocratique. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, chacun proposait des idées et le but, c'était d'avoir un maximum de votants pour les idées annoncées. Et c'est ces idées-là qu'on a retenues.
D'accord. Donc après avoir retenu tout ça, il fallait rédiger donc proprement une charte scientifique pour pouvoir la présenter après à différents acteurs dans l'agroalimentaire, essayer de vendre un petit peu ces idées en avant et ce constat. Donc, vous avez rédigé une charte qui fait 14 articles que vous avez présenté au Conseil régional en juin. Donc, moi, ce qui m'interpelle un petit peu quand je vois ces points-là, donc encore une fois, où je pense que tout le monde va être d'accord, mais par exemple, on a un point 13 qui dit « Agir pour que s'instaure un nouvel ordre alimentaire mondial moins inégalitaire à partir d'une co-construction par tous les acteurs pour une juste répartition des ressources. » Donc, je me dis « Wow, OK, quel chantier ?» Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en pratique, comment vous pouvez essayer de changer les choses dans ce monde-là? On a des projets qui ont l'air d'une envergure assez exceptionnelle. Donc, comment ça se passe en pratique pour maintenant essayer de faire bouger les choses un petit peu?
Donc, oui, du coup, cette charte, effectivement, elle a des grandes ambitions. On a développé des points qui mériteraient qu'effectivement tous les acteurs de la filière agroalimentaire soient impliqués. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué de s'imaginer que des petits doctorants dans leur coin puissent arriver à faire bouger toutes ces choses-là, sachant qu'il y a quand même des gros lobbies industriels et que c'est difficile de faire changer les mentalités. Donc on est plus parti pour essayer de changer les choses dans notre vie quotidienne, dans notre communauté, notre localité, pour essayer de proposer des choses déjà à Clermont-Ferrand, pour ensuite voir si on arrivera à élargir notre champ d'action.
Très bien, alors bon, qu'est-ce que vous proposez du coup? Enfin, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans les différentes actions que vous pouvez mettre en œuvre, les endroits où vous avez pu parler de tout ce projet-là. Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu de manière plus pratique, au moins avec le temps que vous avez eu jusqu'à là? Je sais que c'est un projet assez récent, mais...
Ouais, alors donc pour le moment, on a eu une action vraiment concrète qui a été de participer au sommet de l'élevage donc qui avait lieu à Cournon au mois d'octobre, où on a pu avoir un stand donc sur le sommet où on a pu présenter sous forme vidéo les articles qui sont présentés dans la charte écrite. Et le but, c'était de parler au grand public et d'essayer de les sensibiliser ou de leur montrer que certaines personnes sur Clermont-Ferrand ont des idées que les autres veulent aussi développer, notamment manger local ou avoir une alimentation saine, promouvoir l'éducation en concernant la nutrition ou l'agriculture, des choses comme ça.
Donc là, je vois que c'est beaucoup sous la forme de messages que vous essayez de faire passer un peu partout, mais est-ce que vous prévoyez peut-être des choses un peu plus concrète, des moyens d'aider justement les gens à consommer plus local, des moyens peut-être à mettre en place au niveau, je ne sais pas, des écoles, certaines collectivités pour pouvoir faire un petit peu changer l'origine de tout l'alimentaire qui s'y trouve, de la provenance, les contrôles et des choses un peu plus saines. Est-ce qu'il y a des actions au-delà d'un message à faire passer et au-delà d'une sensibilisation simplement pour la suite, je pense?
Oui, on aimerait pouvoir aller plus loin, effectivement, pour que ce soit plus concret et qu'il y ait vraiment un réel impact, parce que c'est vrai que les messages, on ne sait jamais trop, au final, ce qu'ils deviennent. Et on aurait, en fait, deux orientations qu'on pourrait envisager. La première, ça serait justement de rentrer en contact avec des industries de l'agroalimentaire pour essayer de voir déjà ce qu'ils pensent de nos articles et de voir si on pourrait... les faire adhérer à au moins un article présenté dans la charte pour qu'ils s'engagent à au moins s'engager sur ce point-là pour essayer d'améliorer un petit peu leur manière d'approcher les choses. Et deuxièmement, l'autre orientation auquel on a pensé, et pour l'instant on n'a choisi ni l'une ni l'autre, il va falloir qu'on se concerte et qu'on prenne une décision là-dessus. Ça serait plus de s'orienter vers le grand public et de créer des actions qui seront vraiment ciblées sur eux, c'est-à-dire, par exemple, aller dans des écoles, rencontrer des jeunes, des étudiants, pour leur expliquer comment manger sainement, quel est l'intérêt de manger local, quel impact ça peut avoir sur l'environnement, etc., pour que justement on ait là des faits concrets qui puissent nous permettre d'avancer et d'avoir vraiment oui, un impact significatif sur le grand public.
D'accord. Et alors, dernière question que je me pose, est-ce que vous avez pris contact avec, je ne sais pas, certains experts au niveau de l'agroalimentaire, enfin, en termes de crédibilité après et de reprise de votre message, est-ce que c'est votre statut de doctorant spécialisé dans le domaine que vous mettez en avant, ou est-ce que vous avez approché aussi d'autres experts dans le domaine qui valideraient aussi un petit peu ce que vous mettez en avant et certaines solutions pour le
oui.
faire.
Alors, pour répondre à cette question, donc, quand on était à l'exposition de Milan, on était accompagné par des experts lorsqu'on a fait les articles. Donc, il y a eu quand même une approbation de ce que l'on a écrit pour valider et qu'effectivement, ce que l'on propose est utile. Et par contre, oui, je pense que l'idée qu'on soit doctorant, ça peut jouer, mais c'est pas suffisant. Et là, en faisant quelques recherches, on s'est aperçu, par exemple, que nos points, nos articles correspondaient très bien au plan national pour l'alimentation, donc qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, notamment. Enfin, c'est un projet multi-ministériel. Et du coup, on pensait aussi que ça serait peut-être utile de se rapprocher d'eux pour pouvoir labelliser notre charte pour qu'on ait un impact un petit peu plus fort et qu'on soit crédible pour justement faire nos interventions soit en entreprise, soit vers le grand public.
Très bien, écoutez, la chronique touche à sa fin, vu l'heure, je crois qu'il faut qu'on abrège, donc je vous invite tous à aller essayer de jeter un petit coup d'œil sur cette charte de la jeunesse scientifique que vous pourrez trouver sur internet ou à partir du site du conseil régional, et on va écouter la musique choisie par Alexandre qui est Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry.
happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes au 93.3 sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc. Et vous venez d'écouter le titre entraînant de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Il est temps maintenant de passer à la pause lecture du jour, c'est Avez-vous lu ?
Avez-vous lu ?
Bonsoir Clément.
Bonsoir Barbara.
Alors, de quel ouvrage vas-tu nous parler ce soir ?
Voilà, donc ce soir, on va continuer dans les logiques d'aliénation. Ce soir, on ne va pas parler d'aliénation par rapport au temps, mais par rapport au désir. Et je vais parler du livre de Frédéric Lordon qui s'intitule « Capitalisme, désir et servitude » de points Marx et Spinoza.
Eh bien, écoute, la parole est à toi.
Bon, alors juste pour commencer, très brièvement, quelques mots sur l'auteur. Donc, Frédéric Lordon est un économiste et sociologue français. Il est directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de sociologie européenne, membre du collectif Les économistes atterrés et collaborateur régulier au journal Le Monde diplomatique. Il faut savoir que ses travaux de recherche portent principalement sur l'analyse des crises financières ainsi que sur le développement d'une méthodologie d'analyse pluridisciplinaire des phénomènes économiques liant économie, sociologie et philosophie. Pour ce qui est du cadre général de cet ouvrage, l'objectif de Frédéric Lordon est de revoir et d'approfondir l'analyse marxiste du concept d'aliénation en régime capitaliste, et ce, à l'aide de l'analyse philosophique de Spinoza. L'objectif, c'est de dépasser ce concept d'aliénation pour lui substituer le concept de servitude volontaire. En effet, d'après Frédéric Lordon, la pensée de Karl Marx fonde le concept d'aliénation sur une base trop restrictive, exclusivement matérialiste, fondée donc sur le concept, comme vous savez bien, de propriété privée des moyens de production. Or, selon Lordon, finalement, cette perspective d'analyse n'est pas en mesure d'expliquer les origines des processus d'exploitation contemporains. En témoigne, par exemple, la réalité actuelle du capitalisme, qui montre que le salariat tend à se généraliser à l'ensemble des niveaux de la hiérarchie du monde de l'entreprise, rendant de plus en plus l'opposition entre travailleurs et capitalistes de plus en plus inopérante. Donc, l'objectif de Lordon, c'est de proposer une vision beaucoup plus psychologique des processus d'exploitation, se basant sur la capacité qu'ont les entreprises capitalistes à induire chez leurs salariés les affects, dont les sentiments, nécessaires à l'alignement des désirs de ces derniers sur ceux des premiers, sur une logique de profit, de rentabilité, de croissance, de productivité. Et dans ce cas-là, on peut parler de servitude passionnelle. Donc, concernant le cœur théorique de l'ouvrage, Lordon se base donc sur la philosophie de Spinoza pour comprendre les rapports de domination dans les systèmes capitalistes. Juste un petit rappel concernant la pensée de Spinoza. Sa philosophie, il faut savoir, part sur un postulat radical qui est celui du déterminisme absolu des comportements individuels. Le libre arbitre n'existe pas, les individus n'ont pas de capacité à déterminer librement leurs actions. Par conséquent, nos actions résultent de ce que Spinoza appelle un conatus. Oui, ce n'est pas un gros mot. C'est une puissance d'agir, présente en chacun de nous et ne cherchant qu'à se réaliser dans les supports concrets de l'action. Et l'origine de ce conatus, de ce mouvement qui nous porte vers l'action, c'est simplement les affects, les désirs que peuvent éprouver les individus, les affects de joie ou de douleur dans ce cas-là. Et par conséquent, ce sont les désirs qu'éprouve un individu qui vont activer les forces d'agir pour se réaliser en dernier lieu dans une action ayant pour objectif de satisfaire le désir éprouvé à l'origine. D'accord ? Donc, pour Spinoza, nos désirs ne sont pas créés ex nihilo, mais ne résultent pas d'un libre arbitre capable d'impulser la dynamique interne, mais au contraire, c'est l'environnement extérieur qui va façonner nos désirs et la manière dont nous éprouvons nos affects. Dès lors, toute la question de l'ouvrage de Lordon, ça va être donc de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent conduire un individu à mettre sa puissance d'agir, donc son conatus, au service de la réalisation de désirs qui ne sont pas les siens. D'accord ? Et donc, en d'autres termes, de comprendre quels sont les dispositifs de servitude passionnelle permettant d'orienter les affects, donc les désirs d'un individu, dans le sens voulu par un tiers, en l'occurrence le chef d'entreprise. Donc, Lordon met en évidence plusieurs mécanismes, je vais aller très brièvement sur ceux-ci, en reprenant la dichotomie entre affects de joie et affects de douleur. Par exemple, comment orienter l'action d'un salarié selon les affects de douleur pour faire en sorte que ces derniers agissent dans l'intérêt du chef d'entreprise? Eh bien, tout d'abord, la nécessité de la reproduction matérielle. Dans une société où la division du travail est de plus en plus complexe, bien entendu, vous avez besoin d'un salaire pour subvenir à vos besoins et donc une dépendance au chef d'entreprise pour pouvoir réaliser ne serait-ce que la satisfaction de vos éléments de survie de base. Deuxièmement, et plus intéressant, la concurrence à l'extérieur de l'entreprise, la crainte de l'exclusion ou du déclassement social. En effet, dans un contexte où le chômage est très important, les individus auront une peur de plus importante de ne pas être intégrés au monde du travail, ce qui accroît la capacité de ces derniers à mobiliser leur puissance d'agir à des fins qui ne sont pas les nôtres, à des fins des employeurs, par exemple. Et la dernière, pour les affects de peur, c'est la concurrence au sein de l'entreprise, cette fois-ci, dans la mesure où les nouvelles méthodes de management incitent de plus en plus à mettre les individus en concurrence, à les comparer, à les surveiller, ce qui accroît leurs affects de crainte d'une perte potentielle de compétitivité et les soumet davantage à la logique des entrepreneurs. Concernant très brièvement la servitude selon les affects de joie, cette fois-ci, ce qui est très intéressant, et c'est là tout particulièrement le point qui a trait à la logique de servitude passionnelle, Lordon montre que l'entreprise capitaliste moderne a intégré parfaitement le fait que l'alignement des désirs individuels avec les désirs maîtres, ceux de l'employeur, par le simple jeu de la contrainte, n'est pas tenable à long terme. Source de beaucoup trop de mécontentement. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'induire dans la psychologie des individus un mode de régulation différent des affects qui, cette fois-ci, permettra d'orienter les comportements selon des sentiments de joie et de bonheur. D'accord ? Donc dans ce cas-là, pensons à trois points très simples. C'est par exemple le travail comme source d'accès privilégié à la société de consommation, mais également la volonté qu'ont les nouvelles pratiques managériales de modifier le rapport à l'entreprise pour faire en sorte que l'entreprise, nous devons aimer l'entreprise. L'entreprise est une famille, un facteur de reconnaissance sociale, de solidarité, d'épanouissement personnel. Et dans ce cas-là, l'entreprise doit être considérée comme l'horizon indépassable d'une existence réussie. Je ne partage pas cet avis, forcément. Dernier point, la nécessité de faire oublier aux individus la pesanteur du rapport hiérarchique s'exerçant sur eux. L'objectif est de faire croire aux salariés qu'ils disposent de la plus grande latitude possible dans leurs tâches et que ce sont eux qui sont pleinement en mesure d'agir dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, après avoir pointé finalement toutes ces sources d'aliénation dont sont victimes les individus dans les entreprises modernes, je vais passer très rapidement, mais l'objectif de Lordon, c'est de suggérer une abolition de ces différentes structures à l'origine des servitudes passionnelles et de proposer une nouvelle constitution des déterminations individuelles plus respectueuses des puissances d'agir de chacun. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, cela se traduira simplement par un mode de gouvernance faisant en sorte que chaque salarié puisse participer à la pleine définition des projets poursuivis par l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'il appelle une politique délibérative d'entreprise. Bon, je vais très très rapidement sur ce concept-là. Simplement, pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sans avoir à lire le livre très ardu de Frédéric Lordon, je vous incite à regarder un documentaire de Jean-Robert Vialet qui s'appelle « La mise à mort du travail » et qui est très très intéressant. Voilà, je vous remercie.
Merci Clément, et vu que j'ai très envie de correspondre aux critères, je vais te faire oublier la pesanteur du rapport hiérarchique qui pesait sur toi et te laisser choisir la chanson qui va suivre la chronique.
Alors la chanson, c'est Wax Simulacra de The Mars Volta.
Très bien, à tout de suite. We'll be right back. Vous venez d'écouter Wax Simulacra de The Mars Volta. Il est 18h31 et vous êtes toujours sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf Doc. Il est l'heure maintenant de parler de technologie. C'est le duo Doc du jour.
Duo.
Duo.
Doc.
Le mot robot, du tchèque robota qui signifie travail forcé, a été créé en 1920 par Čapek. De nos jours, dans les œuvres de science-fiction, le mot signifie machine à l'aspect humain, capable de se mouvoir, d'exécuter des opérations, de parler. Et dans la vie courante, il désigne un appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable.
Unimate est le tout premier robot industriel qui fut créé. Il fut intégré aux lignes d'assemblage de General Motors en 1961 pour les besoins de l'industrie nucléaire. Et quelques années plus tard, en 1970, le robot lunaire Lunokhod 1 est envoyé par l'Union soviétique sur la Lune. Il aura voyagé sur une distance de 10 km et transmis plus de 20 000 images lors de son périple lunaire. Entre ces deux dates, en 1964, l'auteur de science-fiction Isaac Asimov se lançait dans un petit jeu qui consistait à imaginer le monde de 2014, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Il va le faire dans son œuvre intitulée « Le cycle des robots ». Il y a écrit « En 2014, seuls des vaisseaux sans équipage humain auront atterri sur Mars, même si une expédition humaine sera en préparation et une colonie martienne déjà imaginée. » 50 ans plus tard, son pronostic est tellement proche de la réalité que cela en est presque effrayant.
Et oui, rappelez-vous de Curiosity, le robot de la NASA qui a été déployé sur le sol de la planète rouge en août 2012 dans le cadre de la mission Mars Science Laboratory. C'est le quatrième engin automatisé envoyé sur Mars par la NASA et nous attendons toujours la première mission 100% humaine sur la planète rouge. Mais les scientifiques travaillent déjà à cela et imaginent la colonie martienne de demain avec le projet Mars One qui veut envoyer des humains la coloniser d'ici 2023.
Donc même en connaissant le génie de l'auteur du cycle des robots, la précision de ses pronostics a de quoi surprendre. Mais ce serait oublier qu'Isaac Asimov a quasiment inventé la robotique et les trois lois qui la régissent. Ce serait aussi oublier que les histoires de l'auteur, qui a connu un succès international, ont inspiré et influencé des scientifiques, des industriels et des artistes qui ont façonné le monde d'aujourd'hui.
Mais dis-moi Romain, qu'en est-il de la robotique d'aujourd'hui ?
Eh bien, on retrouve des robots dans beaucoup de domaines, comme par exemple la médecine, les transports, les applications domestiques, l'exploration en conditions extrêmes ou encore le domaine militaire. Au fait, Camille, serais-tu prête à te faire opérer par un robot ?
Seulement s'il ressemble à Robocop.
Eh bien justement, il existe un robot nommé Da Vinci, qui est un genre de Robocop possédant 4 bras téléguidés, des bistouris et des caméras. C'est le plus connu et le plus répandu des robots chirurgiens, mais ce n'est pas un robot selon la définition que tu as donnée au début, puisque c'est un chirurgien qui va commander ce robot et non un programme. Le robot est donc l'extension du bras du chirurgien. L'avantage, c'est sa précision et son confort d'utilisation qui permet au chirurgien d'opérer plus longtemps, en s'économisant et en réduisant le risque d'erreur humaine. Malgré un coût de 2 à 3 millions d'euros, le robot chirurgien Da Vinci équipe déjà plusieurs hôpitaux de France. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour on passera de la chirurgie assistée par un robot à de la chirurgie opérée totalement par un robot ? Serions-nous prêts à confier notre vie à un programme ?
Bien, en fait, on le fait déjà. À l'heure actuelle, il existe dans les transports de très nombreux systèmes pilotés par des robots. Les pilotes automatiques des avions ou des métros en sont de très bons exemples. Et pourtant, on ne s'est jamais demandé si on pouvait confier nos vies à ces robots qui font en fait partie de notre quotidien.
Il y a 50 ans, Isaac Asimov avait écrit « Beaucoup d'énergie aurait été investie pour créer des véhicules avec des robo-brains, donc des cerveaux mécanisés. » Une nouvelle application est en plein développement par Google qui prépare une voiture sans pilote qui devrait être prête en 2020. La première étape du développement de ces nouvelles voitures, qu'on peut qualifier d'intelligentes, est visible actuellement avec les nouveaux systèmes permettant de garer sa voiture automatiquement. Maintenant Camille, imagine qu'en rentrant chez toi, ta tondeuse est en train de tondre le gazon et ton aspirateur aspire tranquillement ton salon en ton absence. Est-ce un rêve ou une réalité ?
Mais je n'imagine plus, c'est mon quotidien. Eh oui messieurs, fini les corvées de ménage. Votre rêve devient réalité avec les robots domestiques qui sont des robots de service personnel utilisés pour des tâches ménagères. Par exemple, on peut citer le Roomba, robot aspirateur qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde en 2009. Autre exemple dans le quotidien, le robot humanoïde Actroid est un type d'androïde avec une très forte ressemblance avec un humain, que ce soit le physique ou la gestuelle. Actroid a été développé à l'université d'Osaka au Japon dans le but de servir d'hôtesse d'accueil dans les entreprises. Et pour vous dire, on a regardé des vidéos d'Actroid en préparant la chronique et la ressemblance avec un humain est dérangeante. La femme Actroid est le premier exemple d'une machine similaire à celle imaginée dans les œuvres de science-fiction telles que Blade Runner.
Et toujours chez nos amis japonais, qui sont visiblement fans de robots domestiques, il y a eu le développement de Kirobo Mini, un tout petit robot de 10 cm qui pourrait bientôt devenir votre meilleur compagnon de route. Le constructeur automobile Toyota envisage de l'installer dans les porte-gobelets de ses futurs véhicules avec un objectif bien précis, assister le conducteur et lui tenir compagnie lors de ses longs trajets car ce robot peut parler et faire des gestes. L'autre caractéristique importante de ce robot est que grâce à son programme et à une caméra embarquée, il peut analyser le comportement de la personne, évaluer son humeur, ses émotions et enfin réagir en conséquence. Sais-tu d'ailleurs, Camille, que les humains peuvent ressentir de l'empathie pour les robots ?
Et oui, en effet, une étude, encore une fois japonaise, a mis en évidence que voir un robot souffrir ne laisse pas un humain de marbre. Je crains un peu de tomber amoureuse de mon aspirateur robot, ou alors de ma tondeuse à gazon. Maintenant qu'on a parlé des robots dans la médecine, les transports et le domestique, il nous reste deux thèmes à aborder, dont le premier est l'utilisation des robots dans l'armée.
En effet, et on peut penser dans ce domaine à deux types d'applications, la première étant de créer des robots de combat, et la seconde de développer des robots d'assistance qui interviendront directement sur le terrain. À l'heure actuelle, les robots de combat ne sont pas encore assez développés et posent de nombreux problèmes éthiques avec cette question. Peut-on autoriser un robot à tuer un être humain ? D'ailleurs, lors de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle qui s'est tenue en juillet dernier à Buenos Aires, quelques 1000 scientifiques, penseurs et philosophes comme Stephen Hawking ont signé une tribune réclamant d'interdire préventivement les armes autonomes offensives sans contrôle significatif d'un être humain.
C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que les recherches sont beaucoup plus avancées sur les robots d'assistance sur zone de guerre, comme par exemple BER, pour Battlefield Extraction Assist Robot, qui peut aider à localiser et évacuer les soldats blessés sur des champs de bataille ou dans un environnement difficile, notamment toxique. Autre exemple, le robot AlphaDog, qui se déplace sur quatre pattes, permet de transporter 180 kg d'équipement et possède une autonomie de 24 heures. Ce robot chien de transport possède de puissants algorithmes pour garder son équilibre et ne peut pas tomber même si vous lui donnez un bon coup de pied. Et enfin, la dernière application dont on voulait vous parler aujourd'hui est celle des robots d'exploration.
C'est une autre application de la robotique, que ce soit dans les fonds marins, les zones radioactives ou encore en exploration spatiale. Bref, dans tous les environnements qu'on peut qualifier d'hostiles. Par exemple, après la catastrophe de Tchernobyl, des robots ont été envoyés dans la centrale pour explorer les ruines et planifier son nettoyage. Cependant, les robots ont aussi leurs limites et les conditions extrêmes provoquées par les radiations ont mis hors service les robots avant l'obtention de données exploitables. Heureusement, il y a des cas où les robots d'exploration sont presque infaillibles et notamment indispensables. N'est-ce pas, Camille ?
Et oui, toujours dans le même domaine de l'exploration et sur une touche plus légère, nous pouvons tous chanter un joyeux anniversaire à Philae. Barbara, une petite chanson ?
Moi, je chante mal, mais joyeux anniversaire.
Rappelez-vous de l'émission de juillet où Lucie Poulet nous avait parlé de l'atterrisseur Philae, largué par la sonde Rosetta, qui a mis le pied sur la comète Chury il y a un an. Mais encore aujourd'hui, les communications entre le robot et la sonde, qui retransmet ensuite les données vers la Terre, ne sont toujours pas rétablies. Rosetta a annoncé sur son compte Twitter, et oui, elle a un compte Twitter, « Je suis à nouveau à environ 200 km de la comète. Cela améliore les chances d'avoir des nouvelles de Philae. Tout espoir n'est donc pas perdu. C'est le genre de mission qui est totalement envisageable pour des êtres humains, et c'est donc une tâche parfaite pour nos amis les robots. »
Et pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur la robotique, on peut vous suggérer quelques classiques du cinéma, comme Robocop, Terminator, iRobot...
Ou encore mon préféré, Wall-E.
Oui, oui. Et il y a aussi Blade Runner, qui est tiré d'un livre intitulé « Les androïdes rêvent-ils de moultons électriques ?» Donc pour nos amis les lecteurs, il y a aussi l'indispensable « Cycle des robots » d'Isaac Asimov.
Cette chronique sur les robots est maintenant terminée. On vous laisse en compagnie des Daft Punk avec Roborock.
êtes toujours sur les ondes de Radio Campus au 93.3 pour l'émission Quad 9 Doc. Vous venez d'entendre une chanson non sans lien avec la chronique précédente, Robot Rock de Daft Punk. Place maintenant à la dernière chronique de cette émission, Faites beaux rêves Doc.
I am happy to join with you today. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream.
Faites beaux rêves Doc.
Et bonsoir à tous. Alors, le mois dernier, ici même, alors que je terminais ma chronique concernant Jean-Baptiste Gaudin, cet homme qui, au milieu du 19e siècle, a tenté de développer une utopie sociale en créant le Familistère de Guise, j'ai proposé aux auditeurs, mais aussi aux futurs lecteurs de la chronique disponible sur le site d'Octovergne et via Facebook, de me suggérer quelques noms de personnages utopistes pouvant faire l'objet de mon intervention présente. Or, comme je le pressentais, rien. Il ne s'est rien passé. Deux ou trois gemmes, et pas une seule proposition.
Alors moi, j'ai retrouvé ma proposition pour le mois prochain, donc je te la dis tout de suite.
Vas-y.
Donc c'est donc Luke Hulsman, néerlandais.
Luke Hulsman. Le mois prochain, ce sera donc Luke Hulsman. Vous pourrez continuer à faire deux ou trois gemmes sur Facebook, mais j'ai quand même mon Luke Hulsman. Donc, partant de ces quelques gemmes sur Facebook et de cette absence de communication d'un nom, d'un personnage utopique, j'aurais pu, une nouvelle fois, comme j'ai l'habitude de le faire, fustiger l'outil Internet et la profonde inutilité des réseaux sociaux qui nous pourrissent la vie plus qu'autre chose. J'aurais pu aussi m'insurger face à l'équipe de Quad 9 Doc en affirmant que la com est vraiment pourrie. Bref, je pourrais faire comme tout bon français qui se respecte, gueuler. Et bien sûr, comme tout bon français qui se respecte, j'aurais tort, faisant preuve, une fois de plus, d'un orgueil mal placé. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une utopie, d'un utopiste qui montre tout à fait le contraire. Ainsi, on remonte en 1998. Hernán Cassiari, jeune écrivain argentin qui vient passer quelques jours à Paris pour recevoir le prix littéraire Juan Rulfo, qui est un prix sur les nouvelles. Là, il rencontre une jeune journaliste espagnole et décide de rester vivre avec elle à Barcelone. En Argentine, il avait un travail, une maison, une vie. En Espagne, rien, lui aussi. Pas même des papiers pour trouver un boulot. Le pire, c'est que quelques mois après son installation en Europe, il se passe des choses horribles dans son pays natal. Tout d'abord, la crise économique argentine de 2001, dévaluation de la monnaie, 4 ou 5 présidents d'une semaine, un bordel innommable. Ensuite, et c'est certainement le pire pour Cassiari, son équipe de foot favorite devient championne nationale. Oh. C'est réellement horrible de voir pour la première fois son équipe devenir championne et être loin, selon les mots de Cassiari. Ces deux événements tragiques vont lui enseigner quelque chose de fondamental. La tragédie et le triomphe ont le même goût lorsque l'on est loin, ce qui laisse l'amère sensation d'être en dehors du jeu. Pour se consoler et tenter de rester ou de retrouver un peu de lien avec les gens qu'il aime, il décide d'ouvrir un blog. À ce blog, il donne le nom de Orsay, ce qui veut dire, en langage footballistique justement, que tu es hors jeu, que tu n'es pas apte à jouer. Cassiari écrivait de petites nouvelles, des textes brefs, des commentaires sur les derniers matchs de football du Barça. Il a alors vu se former petit à petit une communauté de lecteurs, venant parfois de pays éloignés, type Honduras, Nicaragua. Cassiari n'a rien fait pour créer cette communauté. Ce n'était pas sa volonté de départ. La seule chose qu'il a fait, c'était écrire des petites histoires, lire les commentaires laissés par les lecteurs, tout en entretenant une véritable correspondance effrénée avec eux. En 2003, Orsay est le blog le plus lu du monde. 35 000 personnes par jour. Quand cette communauté s'est faite plus grande, mais aussi plus active, grâce au bouche à oreille, les grandes entreprises de la communication et de la culture ont commencé à entendre ce vrombissement et le téléphone de Hernán commença à sonner. On lui offrit alors la possibilité de publier ses textes et d'écrire pour les plus grands journaux. La belle vie pour un écrivain, en somme. Cependant, il affirme aujourd'hui, avec le recul, qu'à cette époque, il a fait la plus grosse erreur de sa vie. En effet, il affirme alors avec dépit « j'ai été travailler avec l'industrie ». En quoi ceci est une erreur? Voyons ça. À l'époque où il commence à travailler avec l'industrie, il arrête alors la communication directe avec la communauté de ses lecteurs et laisse un intermédiaire s'infiltrer entre lui et ses lecteurs. Une maison d'édition, un administrateur. Bien évidemment, cet intermédiaire lui demande d'enlever tous ses textes gratuits du net pour pouvoir les vendre. Mais cela est impossible, car comme le dit Cassiari, on ne reprend pas un cadeau. Le temps s'écoule doucement, Cassiari est redevenu écrivain, en tout cas soumis au monde éditorial. Et pourtant, une délicate impression s'élève en lui. Il a la sensation de se faire voler. Il donne un exemple. Un jour, sa maison d'édition le paye pour la vente de 850 exemplaires d'un livre de poche vendu en Argentine. Or, très ami avec le libraire de sa ville d'origine, Mercedes, dans la province de Buenos Aires, il savait d'ores et déjà que le nombre de livres vendus dans cette librairie s'élevait à 750. 850 en Argentine, 750 dans la librairie d'un bled. Quid du vol organisé éditorial ? À cette époque, s'ajoute à ce vol la révolte des lecteurs qui, par email, s'insurgent que ces livres ne soient pas disponibles dans leur pays. Parce que l'industrie ne vend pas des livres dans les pays où cela n'est pas rentable. Si un Salvadorien ou un Péruvien veut un livre de Cassiari, il peut aller se faire voir car il ne l'obtiendra jamais. Alors, en 2010, lorsqu'il a commencé à avoir sérieusement marre de ces conneries, il a renoncé publiquement à l'ensemble de ses contrats éditoriaux et journalistiques. Il le dit textuellement dans la conférence TED dont vous retrouvez le lien dans ma chronique publiée. En 1400 mots, sur le blog, je les ai tous envoyés se faire foutre. Ainsi, avec ses décisions, il a repris la discussion avec ses lecteurs après plus d'une année de silence. Et c'est à ce moment que lui a paru l'idée. Une idée qui, d'un côté, semblait tout à fait divertissante, mais qui, d'un autre côté, tenait un objectif secret. Cet objectif consistait à démontrer, et à se démontrer aussi à lui-même, que la fameuse crise économique, la crise de l'industrie dont on nous rabâche les oreilles, n'est pas réellement économique, mais bien plus morale. Il fallait, pour Cassiari, tuer le voleur. Il fallait tuer l'intermédiaire. L'idée était de faire une revue impossible, depuis sa propre maison, avec un staff uniquement constitué de sa famille et de ses amis d'enfance, une revue qui s'appelait Orsay, comme le blog. Elle contiendrait zéro pub, aucun intermédiaire, la meilleure qualité graphique du marché, cela dans n'importe quel lieu du monde. Elle serait publiée en version papier, mais aussi en version numérique pour tablettes et smartphones. Par ailleurs, elle serait divulguée gratuitement en PDF 10 jours après la publication papier. Il écrirait et dessinerait uniquement des individus que Cassiari et son meilleur ami Chiri admiraient beaucoup depuis leur plus tendre enfance. Elle serait trimestrielle, aurait plus de 200 pages, et dans chaque pays, la revue coûterait le même prix que 15 journaux de l'édition du samedi. Un rêve, quoi. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'imprévu au sein de la communauté formée par le blog. Les lecteurs d'Orsay ont commencé à se charger de la communication du projet, à en parler à leurs amis, à leur famille, partout autour d'eux. Les gens ont eu la foi. Et je le dis avec fierté aujourd'hui, 5 ans après, car moi aussi j'ai eu la foi. Et oui, je faisais partie des 10 000 personnes qui, sans savoir ce qu'il y avait ou ce qu'il allait y avoir à l'intérieur de la revue, ont acheté le numéro 1 en prévente. Mais ce qui fut génial dès le numéro 1, c'est que nous ne pouvions acheter les revues que par paquet de 10. C'est-à-dire que lorsque je commandais un paquet de 10 revues et qu'ils arrivaient quelques jours après à la maison, je devais contacter les 9 autres lecteurs de la revue à Clermont-Ferrand et nous nous retrouvions pour partager un moment symbolique autour de celle-ci. Ainsi, de cette manière, au-delà de créer du lien social, nous étions en train de tuer l'intermédiaire et l'intermédiaire de la distribution, qui est une mafia. Petit à petit, plus qu'un blog, plus qu'une revue, plus qu'une maison d'édition, Orsay s'est transformé en un projet social. En 2011, s'est ouvert un bar Orsay à Buenos Aires, a suivi à Barcelone et à San José au Costa Rica, dans lequel les lecteurs peuvent se retrouver pour parler des textes, mais aussi pour participer à des lectures, des ateliers d'écriture, des concerts. Mais surtout, les lecteurs ont eu la possibilité de s'impliquer dans la création en proposant une participation financière, un coup de main pour les tâches administratives, la tenue du bar, les travaux. Finalement, cet outil Internet dont je vous parlais au début, cet outil Internet ne fut qu'un pont facilitant la création d'une communauté, mais l'on revient toujours à la création du lieu physique, le lieu symbolique, comme le café où l'on échange nos idées, où l'on tente de changer le monde. À sa manière, Cassiari et la communauté Orsay a changé le monde, refusant d'écouter les voix de l'industrie qui impose la standardisation et la publicité. Nous avons montré qu'il est possible de se passer des intermédiaires et possible de façonner notre propre monde. Mais pour cela, il faut s'impliquer. Plus qu'un simple « j'aime » sur Facebook, il faut redevenir acteur, redevenir citoyen. Sinon, ce qui nous pend au nez, et je vous le dis sincèrement ce soir, c'est de rester définitivement hors jeu.
Merci Nicolas pour cette chronique. On va quand même terminer sur une note musicale avec un petit peu plus de douceur. Tu as choisi quoi comme chanson ?
Plus de douceur, je ne sais pas, mais plus rythmé, c'est « Vamos portarnos mal » de Calle 13.
Suban el telón, abran la... las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas,
nuestros propios mandamientos.
Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad
no puede con nosotros.
Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow.
Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
Oye, hoy vinimos a portarnos mal,
mal.
Como un niño con su resortera,
mal.
Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos
mal,
pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
Que suban sola,
como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano, como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano.
C'est sur cette chanson de Caliet Lessé, Vamos Portarnos Mal, que nous allons nous quitter ce soir, puisqu'il est déjà l'heure de clore cette émission. Si vous souhaitez la réécouter ou simplement l'écouter en intégralité car vous nous avez rejoint en cours de route, vous retrouverez le podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctoverne www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. Et vous avez le droit de mettre plein de j'aime pour faire plaisir à Nicolas. Tous les podcasts de l'émission sont d'ailleurs disponibles sur tous les sites que je viens de vous citer. Si vous souhaitez venir présenter vos travaux de recherche, vos projets ou simplement nous proposer des thématiques à aborder, une fois encore, n'hésitez pas, faites plaisir à Nicolas, contactez-nous. Je vous remercie encore d'avoir partagé cette dernière heure de votre temps avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très vite. Au revoir.
Vous venez d'écouter Quoi de neuf Doc, l'émission de Doc Auvergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.